Radio Barque, dixième, deuxième partie. Nous continuons le sommaire annoncé tout à l'heure, Michel, avec, pour commencer, ou pour continuer par rapport à la semaine dernière, les Qataris à Narbonne.
Oui, Jean-Claude,
suite parce que de la saga.
C'est pas que je veuille mettre en valeur les billets que je fais sur mon blog, mais alors celui que j'ai consacré à cette affaire a eu un succès incroyable. Bon, 5000 lecteurs, ça continue encore aujourd'hui. Hein, et alors, pourquoi? En fait, peut-être que l'explication est là. C'est que je donne quand même quelques informations qui n'ont pas été publiées dans la presse sur ce fameux fonds qatari.
D'ailleurs, en fait, on n'a pas appris grand chose, sinon des spéculations. Dans
exactement.
La presse.
Alors, comme je suis par nature, enfin, curieux, hein, et que je ne prends pas, je n'ai pas pour habitude de prendre des informations qui sont dans la presse comme ça, en fait, à la volée sans y réfléchir, en fait, d'où elles viennent, pour quelles raisons et qui est derrière. Je suis allé un peu quand même gratter, en fait, la question, et je me suis intéressé donc à ces Qataris en question. Alors, première surprise, Jean-Claude, hein, première surprise, chers auditeurs, c'est pas un fonds du Qatar, pas du tout.
Ah, ce sont des faux Qatars ?
En quelque sorte, c'est un fonds qui
est
basé... Ce
sont des Qatars pas parfaits du tout, alors.
C'est un fonds qui est basé... En fait, c'est un fonds qui n'est pas constitué de capitaux de Qatariens. C'est un fonds qui est spécialisé dans la collecte de fonds pour investir au Qatar et au Moyen-Orient.
Ah, ce qui est autre chose.
Première chose, première information. Et dans des secteurs très ciblés, en fait, la pharmacie, etc. On comprendra pourquoi après. Deuxième information, ce fonds n'est pas du tout basé au Qatar. Il est basé dans l'île de Man. Alors, pour nos auditeurs...
L'île de Man, c'est-à-dire les îles britanniques, hein, dans les îles britanniques.
Mais qui
a un statut très particulier,
oui. C'est la plus grande concentration mondiale de fonds spéculatifs. Et originalité de cette île, c'est que ces fonds spéculatifs ne sont pas gérés par les propriétaires de ce fonds. Là-bas, il y a une spécialité qu'on appelle les trustees, c'est-à-dire ce sont des organisations qui domicilie et qui assure la gestion secrétariat et administration des 10 fonds. D'accord ?
Oui.
Donc quand on va chercher le fonds qatarien en question à l'île de Man, on tombe sur un trustee son parachute, une quantité de fonds comme le fonds qatarien en question, invraisemblable. Et quand on prend le temps de prendre son téléphone, en fait, ce que je n'ai pas vu, c'est un peu cher quand même, hein, de téléphoner pour avoir le nom de la secrétaire qui s'occupe du fonds, on tombe encore sur un filtre qui ne permet pas effectivement d'y accéder.
Oui, donc c'est l'opacité complète, là.
C'est l'opacité la plus complète. Hein. Alors déjà, bon, t'as un fonds qui n'est pas du Qatar, qui est basé à l'île de Man, spéculatif, dont on ne connaît pas le patron, qui est masqué par toute une série d'intermédiaires, bon, déjà. Puis enfin, troisième information. Le conseiller financier qui, paraît-il, a eu des contacts avec nos élites locales. Je cherche un peu et je réussis à tomber sur son profil. Et ce garçon...
À part qu'il se prénomme Jihad.
Oui.
C'est ce qui est vrai.
Et je tombe sur ce garçon et je constate que dans son profil, alors je ne porte pas de jugement sur ses performances en tant que financier, mais je note dans son profil. Dans un réseau très célèbre, connu, Lindelink, hein, qui est un réseau spécialisé dans ce genre de choses, qu'il était docteur vétérinaire. Docteur vétérinaire et spécialisé dans la filière équine.
— Viendrait-il soigner le Racing,
alors ?— Alors, c'est vrai que il y a un peu de connexion avec la spécialité de ce fonds qui n'est pas qatarien,
oui,
et l'anime de Man qui va au Qatar, qui s'est plutôt
orienté
vers
la
pharmacie,
la pharmacie. Oui.
Hein. Mais de là, effectivement, bon, à se retrouver spécialiste d'un financement d'un fonds qatarien qui n'est pas au Qatar, mais qui est spécialisé dans des investissements dans la pharmacie. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors, oui. Si j'en reparle aujourd'hui, c'est parce que dans l'Indépendant de vendredi, d'hier, je constate que Guy Molvaux lui-même défend ardemment la venue des Qataris au Racing. Alors, je pose simplement une question, en fait. De quel Qatari parle-t-on?
Oui.
Est-ce que s'est-on vraiment informé sur les Qataris dont j'ai pu effectivement retracer l'origine
en fait,
et la domiciliation? Alors, cela dit, on peut imaginer tout un tas d'informations nouvelles. Mais en tout cas, j'attends avec impatience.
Informations nouvelles que l'on n'a pas aujourd'hui.
J'attends avec impatience quelqu'un ou un spécialiste qui vienne infirmer ce que je viens de dire à l'instant entre les antennes.
Voilà. Et bien, nous attendrons dans les semaines qui viennent d'en savoir un petit peu plus. Et nous enchaînons avec le Muréna, dont une première pierre a été posée cette semaine.
Ah oui, alors, Jean-Claude, là, on a assisté pendant 3 jours à un véritable bombardement médiatique comme je n'en ai jamais connu. Pourtant, quand même, ayant travaillé longtemps auprès de présidents d'exécutifs importants ici et ailleurs, j'en ai vu passer, quoi, des bombardements et des escadrilles en fait, de ce style. Mais là, pendant 3 jours, un article pour annoncer la première pierre. Pleine page. Le lendemain, un autre article, pleine page, pour la conférence de M. Jacques Michaud sur le Muréna. Et puis enfin, le troisième jour, un article, pleine page, Midi de l'Indépendant, sur la première prière de Muréna, qui verra le jour en 2019.
Le musée, pas la première pierre. Enfin, si tout se passe comme prévu.
Ce qui signifie que cette première pierre n'est pas une première pierre. En fait, symbolique, certes.
Oui, elle était. Voilà. On est dans le symbole. Là,
Alors elle tombe évidemment en pleine campagne des élections régionales.
Alors, ça, c'est pas symbolique du tout.
Ça, c'est pas symbolique du tout.
C'est très concret.
C'est
oui.
Très concret. Donc, effectivement, un esprit coquin, comme le mien, fait une relation, effectivement, entre cette première symbolique, la sortie du musée en 2009, et puis tout un aéropage de pierres symboliques, composé de M. Allary, candidat régional, de M. Codorniou, candidat régional, de Mme Giral, la première, etc., etc., etc. Mmh. Alors, cela dit.
De ce point de vue-là, c'est bien joué.
Et la presse, de mon point de vue, quand même, manquer un peu de recul, sinon beaucoup de recul journalistique sur cette opération. Mais bon, passons. Ce sur quoi j'ai insisté dans mon blog, c'est sur la polémique, à propos de la polémique qui a immédiatement débuté, cette affaire-là, autour de la participation ou pas de la ville de Narbonne au financement du fonctionnement de ce musée. Où je prends, et je l'ai exposé clairement dans mon avis, une position claire, enfin qui me semble devoir être celle d'une ville comme celle de Narbonne. 1. Une commune n'a pas à financer le fonctionnement d'un musée exclusivement régional. C'est un musée qui appartient à la région. Et on ne va pas lui demander de participer au fonctionnement d'un musée régional au seul motif qu'il serait situé sur le territoire de la commune de Narbonne. À ce compte-là, on pourrait demander à la ville de Narbonne, parce que la préfecture de Narbonne est sur son territoire, de participer au fonctionnement et au fruit de mouche, la sous-préfète. C'est absurde. C'est absurde. De la même manière, c'est l'agglo. En fait, aujourd'hui, il y a la compétence des grands équipements culturels, la médiathèque, le conservatoire, que sais-je encore, le théâtre. On ne va pas demander, je parle de Basse-Cou, on ne va pas demander au maire de Narbonne de financer le fonctionnement du théâtre au motif que le théâtre est sur le territoire de sa commune. Ce serait revenir à la période antérieure au transfert de compétences.
Donc tu trouves normal que la ville n'y participe pas.
Et d'autant que, contrairement à ce que dit la presse, la ville, de fait, a participé au financement de cette première opération Muréna, en mettant à disposition gratuitement 3 hectares de foncier à la région. Et ensuite, dernier point, peut-être qu'on y reviendra, la ville aura l'obligation de financer toute une série d'investissements périphériques au Muréna, ronds-points, chaussées, etc., qui coûteront extrêmement cher à la ville. Donc, pour des raisons à la fois qui tiennent à la compétence exclusive de la région en la matière, au fait que la nouvelle loi va interdire les financements croisés, notamment de fonctionnement.
Ça, c'est la future nouvelle loi.
Et 3, enfin, parce que tout simplement, la ville participe par des investissements périphériques et par la livraison d'un foncier pour un frein symbolique à cet investissement, je ne vois pas comment on pourrait faire le procès. Quoi qu'on peut penser par ailleurs de la politique conduite par Didier Mouly, à la ville, je parle de la ville avec un grand V, indépendamment des élus qui la gouvernent, de ne pas financer à cette affaire. Donc tout ça est un procès purement politique et politicien qui tient à la conjoncture politique du moment, à savoir la campagne électorale. Mais sur le fond, je je dis, en fait, je le dis clairement dans mon billet, que la ville de Narbonne n'a pas, pour des raisons de compétence, en fait, à financer le fonctionnement d'un établissement qui ne lui appartient pas.
Voilà. Un bémol quand même, c'est le fait qu'apparemment la ville s'était engagée et qu'elle aurait changé d'avis récemment.
Oui, mais ça, Jean-Claude, monsieur le maire, je n'en sais fifre rien. C'est un débat qui est parole contre parole. Moi, je n'étais pas à la réunion à laquelle assistait Jacques Bascou, j'étais à laquelle participait Didier Mouly, et dans laquelle, paraît-il, Didier Mouly se serait engagé verbalement, pardon, oralement, à participer au fonctionnement de cette affaire. S'il l'a dit, il a fait une erreur d'opportunité ou en tout cas de conjoncture, peut-être pris dans la passion du moment, en fait, par, dans le, par le caractère un peu amical de la réunion. Mais en tout cas, sur le fond et sur les principes, je maintiens ma position. Bon, je ne sais pas ce que sera l'avenir, hein, mais bon, elle n'a pas intervenu. Par contre, le Grand Narbonne, lui, en tant qu'établissement qui mutualise des gros équipements culturels sur l'ensemble de l'agglomération, après tout, s'il le décide, il est légitime à le faire.
Voilà. On marque une deuxième pause, après quoi, je le rappelle, nous retrouverons notre invité de ce jour, Henri Martin, maire de Port-la-Nouvelle.